Merci, bonjour et merci pour votre invitation. Je suis très content d'être là, de discuter avec vous de cette question. Donc c'est la première fois que vous avez invité un sociologue, mais en fait, est-ce que je suis vraiment un sociologue? Et est-ce qu'on peut aborder ces questions de façon monodisciplinaire? Je pense que ces questions sont complexes, on a dû déjà le dire, et combien on a besoin de références théoriques qui viennent puiser à des champs différents. Pour ce qui me concerne, je viens du droit, des sciences, des organisations, avant que ça s'appelle la gestion, j'y reviendrai sans doute. Et puis je suis passé par la psycho, la psychosocio, et effectivement maintenant je suis sociologue, mais sociologue clinicien. L'idée d'introduire la clinique dans la sociologie, hein, en médecine, cliniquer c'est au chevet, au pied du lit du malade, c'est quand la médecine s'intéresse pas seulement au corps mais aussi au malade et ce que le malade a à dire sur sa maladie. En psychologie, bon, la psychologie clinique, vous êtes sans doute bien familière avec, pour ce qui me concerne, un passage par la psychanalyse. Et donc l'idée d'une sociologie clinique, c'est une sociologie qui parle du vécu, c'est-à-dire la façon dont nous vivons les phénomènes sociaux, et de mettre en tension l'approche clinique qui est plutôt près du vécu et l'approche sociologique qui est plutôt distanciée et qui analyse l'homme en situation et du côté de la situation, c'est le contexte social, culturel, historique, économique dans lequel il est. Donc je vais faire des va-et-vient comme ça entre ces différents registres pour essayer de faire deux choses. L'une, c'est essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le monde du travail, dont le suicide est un des symptômes qui a pris, en tout cas en France. Alors, je vais sans doute faire un peu d'ethnocentrisme, mais vous m'en excuserez. Mon expérience est surtout comme chercheur au laboratoire de changement social. Ça fait maintenant plus de 30 ans qu'on travaille sur les transformations du monde du travail et ses répercussions sur la santé. Le premier livre que j'avais fait, c'était avec Max Pagès à Dauphine. Dauphine, c'est l'université de sciences des organisations qui est devenue l'université de sciences des gestions. Et on avait travaillé sur IBM, je vais y revenir, et sur le système d'IBM. Et puis avec Nicole Aubert, j'avais fait un livre sur le coût de l'excellence. Et puis là, je travaille les raisons de la colère, c'est-à-dire ça fait très longtemps qu'on travaille sur les liens qui peuvent exister entre les transformations des modes d'organisation du travail et des pratiques de management et les répercussions en termes de santé mentale avant qu'on évoque la question des risques psychosociaux. Et puis, je vais essayer de vous expliquer comment nous, on a problématisé cette question. Et dans un troisième temps, mais qui sera plutôt cet après-midi, dans l'atelier, ça sera la réflexion sur qu'est-ce qu'on fait à partir de là, hein, à partir de ces hypothèses, et quelles réponses on peut apporter à ces questions aujourd'hui. Alors, pour illustrer ça, je pense que la première question, c'est qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le monde du travail, où on a tellement de témoignages de toutes sortes. Alors, vous avez déjà discuté de savoir comment objectiver le phénomène, le mesurer, etc. On y reviendra peut-être. Mais je voudrais partir plus de la subjectivité d'un nombre de gens de plus en plus grand. Et moi, je tourne dans beaucoup de milieux sociaux, beaucoup de secteurs économiques différents, le public, le privé, des multinationales aux petites associations de quartier. Et les témoignages sont les mêmes. Les gens sont pas bien. Les gens expriment un mal-être, expriment un malaise, avant même de tomber malade. Et il y en a beaucoup qui tombent malades, qui ont des symptômes somatiques et psychosomatiques. Et donc, vous avez déjà évoqué la question qui peut prendre des formes différentes, du harcèlement, sentiment de harcèlement, le burn-out, ce qu'on appelle communément le stress en France. Je pense, je ne vais pas amener des chiffres, mais dans votre papier, vous dites 10% ont pensé à faire des tentatives, enfin, au suicide. C'est énorme. En France, les chiffres sur le stress varient selon les études entre 40 et 70% des gens qui vous disent qu'ils sont stressés. Alors après, on peut mesurer le stress, l'hyperstress, etc. Mais il y a le sentiment que quelque chose ne va pas et j'y reviendrai. Ça a démarré dans le privé. Et puis, ça s'est répandu dans la modernisation des entreprises publiques. Et puis, aujourd'hui, dans toutes les institutions publiques, en France en tout cas, vous avez exactement les mêmes symptômes que ceux qu'on a vus émerger dans le prix. Et en écrivant, en préparant cette conférence, je reçois un mail, par exemple, hein, qui, de quelqu'un qui m'a écouté à une conférence à Clermont-Ferrand et qui travaillait à France Télécom et qui m'envoie toute une série de mails sur le suicide d'un de ses camarades. Et un des mails, c'est... il raconte que toute l'après-midi, il a travaillé à France Télécom pour essayer de réparer quelque chose qui collait pas. Alors, c'est intéressant parce qu'il dit production impossible car la POI n'était pas confort, la paire 4 étant isolée sur un nouveau PC ne comportant que 4 paires, etc. Donc, je vais juste vous faire la traduction. Mais on voit, c'est un technicien quoi, qui essaye de réparer. Et puis, tout l'après-midi, nous avons fait de notre mieux, mon collègue et moi, et pour éviter ce dysfonctionnement. Et en fait, comme ils ne sont pas arrivés à supprimer le dysfonctionnement, cet employé de France Télécom a été supprimé du plan de charge. Ça veut dire quoi, supprimé du plan de charge? Ça veut dire que c'est comme s'il n'avait pas travaillé. Et alors il écrit, l'étonnement passé, il en fait part à son collègue, et cette décision m'a profondément affecté sur plusieurs points. 1. Mon travail de l'après-midi n'a pas été pris en compte. 2. Mon efficacité de l'après-midi a été réduite à néant. 3. Mes heures produites ont été réduites à néant. 4. Mon implication quotidienne n'est pas ou plus reconnue. 5. Si cette situation se produit plusieurs fois dans le mois, je devrais justifier des absences fictives, involontaires de ma part, tout en étant bien présent sur mon lieu de travail ces jours-là. Vous voyez le paradoxe incroyable dans lequel il se trouve. 6. Si cette situation se produit plusieurs fois pour d'autres collègues, France Télécom pourra supprimer sans problème un ou deux postes en intervention. 7. J'ai été balayé d'un simple coup de clic. Clic, c'est sans doute sur l'ordinateur par rapport au plan de charge. Moi qui croyais niaisement que l'entreprise avait encore de la considération pour ses collaborateurs depuis des événements récents. Évidemment, les événements récents auxquels il fait allusion, c'est toute la vague de suicides qu'il y a eu à France Télécom. Ce mail que j'ai reçu, là, date de janvier. 8. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends plus. C'est-à-dire ce sentiment de perte de sens qui fait que quelque chose se détruit, se délite, etc. Bonne journée, Jean-Pierre. Et dans un deuxième mail, il explique qu'il n'en peut plus, et il dit « Je suis honnête, et j'ai du mal à supporter l'injustice. Je travaille maintenant la boule au ventre, et mes nuits sont cauchemardesques. Je préfère avertir le médecin du travail qui jugera s'il veut me rencontrer ou pas. Personnellement, je le souhaite vivement. » Donc on voit comment un problème technique, après, se médicalise ou se psychologise, et le besoin qu'il a absolument de pouvoir parler avec quelqu'un dans le désespoir, la désespérance et la déshérence dans laquelle il est. Merci, bonne journée, Jean-Pierre. Et celui qui m'envoie le mail dit « Ces mails ont été écrits par Jean-Pierre les 26 et 28 septembre 2012. Jean-Pierre était un technicien de France Télécom le 31 décembre 2012 dans la matinée alors qu'il était en service en bleu de travail, qu'il était dans le plan de charge marqué en renfort. Il a laissé un courrier dans son véhicule. Puis il s'est allongé sur la voie ferrée entre Saint-Étienne et Lyon et son corps n'a été découvert que plusieurs heures plus tard. » Et pourquoi il m'envoie ce mail? Parce qu'il me dit « Aujourd'hui, à France Télécom, on se suicide autant qu'en 2008 et 2009, quand la presse s'est emparée de ça et que rien n'a changé. » Alors que toute la communication de France Télécom est de dire que les choses ont changé. Alors, si je commence comme ça, c'est évidemment pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'on puisse en arriver là. Et il me semble que Jean-Pierre donne quelques éléments, je vais y revenir. Et en même temps, ça évoquait pour moi ce mail. Quand j'ai écrit « Le coup de l'excellence » avec Nicole Aubert, c'était en 90, c'est-à-dire il y a plus de 20 ans. Et on avait travaillé sur qu'est-ce qui se passait dans les multinationales et l'émergence de ce que je vais appeler, si vous voulez bien, la révolution managériale, c'est-à-dire ces transformations des modes de management et des modes d'organisation, hein, dont les multinationales comme IBM étaient le modèle. Et tout le monde rêvait de travailler à IBM à l'époque, dans les années 60-70. Moi, j'étais à l'université Dauphine, tous les étudiants, leur plan de carrière, c'était de travailler à IBM, qui était le modèle de la haute performance, le modèle du management par l'excellence. Et puis, avec Nicole Aubert, à ce moment-là, on avait fait ce livre, Le coût de l'excellence, dans un plan de recherche sur travail et santé mentale, pour prendre le contre-pied d'un livre que certains d'entre vous ont peut-être connu, qui s'appelle, de Peter et Waterman, qui étaient deux consultants de McKinsey, qui avaient fait un livre, Le prix de l'excellence, In Search of Excellence, en anglais, et qui étaient deux consultants qui avaient analysé les modes de management des 64 entreprises les plus performantes en France et dans le monde, enfin dans le monde, aux États-Unis et dans le monde, pardon, puisqu'ils étaient américains. Et ce livre, le prix de l'excellence, était devenu le modèle, était enseigné dans les écoles de management comme étant le modèle de la culture de la haute performance. Et tous les dirigeants dans le monde entier faisaient référence à ce modèle-là, qui est toujours d'ailleurs en vigueur, hein, qui est celui d'ailleurs qu'on utilise maintenant pour l'importer dans le public, alors même que le privé est en train de le remettre en question depuis longtemps. Et c'était le management par l'excellence. Alors, je ne vais pas le développer ici, mais ce qui est intéressant, c'est qu'un des deux auteurs, Peter, a écrit 7 ans plus tard un ouvrage qui est passé tout à fait inaperçu, alors que le premier s'est vendu à des millions d'exemplaires. Et le deuxième ouvrage de Peter, il s'appelle « Le chaos management ». Et dans l'introduction, il dit il y a quand même un problème avec le management par l'excellence, c'est que sur les 64 entreprises qu'on a analysées, 7 ans après, il y en a plus de la moitié qui sont en crise, qui ont disparu, qui ont été rachetés. Donc il y a vraiment une question, et il dit « devenez des fanatiques de l'échec ». Et seuls ceux qui sauront vivre dans un monde paradoxal, dans un monde chaotique, s'en sortiront. Et devenez des fanatiques de l'échec, c'était l'idée, si vous échouez 6 mois avant vos concurrents, vous vous donnez une chance pour réussir 3 mois avant eux pour le coup d'après. Et tout son livre est un tissu de paradoxes. Et donc ça, c'est une des hypothèses qui me paraît très explicative sur ce mal-être au travail. Quand vous interviewez les gens, ce qu'ils vous disent, c'est que ce que dit Jean-Pierre, je ne comprends plus, ça ne fait plus sens. Et s'ils ne comprennent plus et si ça ne fait plus sens, c'est parce que qu'il y ait des contradictions dans les organisations n'est pas quelque chose d'anormal. C'est pour ça qu'il y a de l'organisation. L'organisation, c'est justement pour essayer de mettre en cohérence et ensemble des éléments qui sont disparates et des logiques qui sont plus ou moins contradictoires. Bon, la contradiction entre le travail et le capital, ce n'est pas une grande découverte de Karl Marx, et ce n'est pas parce que plus personne n'est marxiste que cette tension-là entre les travailleurs et les actionnaires, elle est bien connue. Mais les tensions entre les logiques commerciales, les logiques financières, les logiques techniques, etc., sont bien connues. Bon. Et l'organisation, elle est faite pour produire de la médiation par rapport à ça. Ce qui se passe dans le monde du travail aujourd'hui, c'est que le management n'étant plus centré pour produire des organisations qui permettent de faire de la médiation, ils sont centrés sur le résultat. Les managers vous disent, ils ouvrent leur ordinateur le matin et puis ils voient le cours de l'action et puis il faut qu'ils fassent du résultat. Toutes les évaluations d'ailleurs qui sont faites, sont faites pour évaluer par les résultats. Il faut mesurer le développement de la cantophrénie dans les organisations est tout à fait stupéfiant. C'est-à-dire la cantophrénie, c'est la maladie de la mesure. C'est-à-dire les choses n'existent que si on peut les mesurer. Ça vous fait rire ? Là, vous avez raison d'en rire, parce qu'il y en a que ça fait pleurer. On rit pour ne pas pleurer. Donc, si vous voulez, ça, cette évolution-là, il faut comprendre pourquoi et comment on en est arrivé à cette situation de non-sens ou d'insensé, je dirais, quand je parle de cantophrénie. C'est-à-dire ce sentiment qu'ont les travailleurs que les formes d'organisation dans lesquelles on les met et les outils de gestion, au lieu, c'est un peu le développement de Christophe Dejoux ou Yves Clos, au lieu de les aider à travailler, ça les empêche de travailler. Et qu'on évalue en permanence la production de leur travail avec des indicateurs et des critères qui ne correspondent pas à la valeur et au sens qu'ils accordent au travail bien fait et à l'amour du métier. Alors ça, on pourrait dire, c'est encore des contradictions, c'est pas tout à fait des paradoxes. Mais là, quand on voit Jean-Pierre, on voit bien comment on navigue vers quelque chose de paradoxal, c'est-à-dire il essaye de bien faire son travail, et comme il n'a pas le résultat attendu, c'est comme s'il n'avait pas travaillé, et on le clique, on le fait disparaître du plan de charge, et donc du coup, il n'est pas inscrit comme ayant travaillé, et ça le met évidemment dans cette espèce de néant, il dit je n'existe plus, je ne suis plus rien, etc. Et donc on peut penser que la question du suicide au travail est liée à quelque chose qui est fondamentalement destructeur dans le monde du travail et qui est liée à cette espèce de sentiment qu'on n'a plus de maîtrise, qu'on n'a plus de prise sur ce qu'on fait et que c'est ce que disent beaucoup de professionnels, ils disent l'amour du métier se perd, on devient polyfonctionnel, il faut être compétent sur tout, etc. Et donc du coup ce qui faisait le sens même du travail disparaît. Je pourrais vous donner l'exemple, par exemple, des médecins en France, avec ce qu'on appelle la T2A, la tarification à l'activité, qui fait que les malades, maintenant, rapportent des points à l'hôpital, et qu'en fonction des points qu'ils rapportent, il y a des malades qui sont rentables, et d'autres qui ne sont pas, puisque ces points vont déterminer le budget qu'on va avoir. Donc le médecin, il doit calculer, non pas avant de faire le diagnostic, du malade, par rapport au serment d'Hippocrate, c'est-à-dire le médecin, on peut attendre que sa tâche principale, ce soit de soigner les gens indépendamment de la couleur de leur peau, de leur revenu, du type de pathologie qu'ils ont, etc. Plus du tout, c'est plus ça. Maintenant, ils doivent d'abord déterminer le nombre de points qu'ils rapportent avant de les soigner. Et s'il ne le fait pas, il a un coup de téléphone du directeur de l'hôpital ou du gestionnaire qui lui dit « Écoute, tu fais bien ce que tu veux, mais là, tu es en train de déconner, parce que c'est ton service qui va être mal évalué, et si ton service est mal évalué, c'est l'hôpital qui va être mal évalué par l'agence régionale d'évaluation, etc. Et donc tu nous mets en danger. Et donc si le médecin continue à être sur les valeurs traditionnelles de la médecine en fonction du serment d'Hippocrate, il n'est pas dans cette nouvelle culture, the new public management, qui est la culture qu'il doit mettre en place pour rendre l'hôpital rentable. Rentable au point de vue d'avoir suffisamment de points pour pouvoir être financé et de savoir qu'il y a un rapport entre la façon dont il va exercer la médecine et le nombre de, et les financements, les budgets, etc. C'est ce qu'on appelle, il y a une rationalité là dans la gestion qu'on peut d'ailleurs comprendre. C'est-à-dire, c'est une certaine conception de l'humain et de la gestion qui vient en contradiction avec les valeurs qui fondent le métier, qui fondent la compétence. Je vous ai donné l'exemple chez les médecins, je pourrais vous parler longuement des chercheurs qui sont évalués en fonction du nombre d'articles qu'ils publient dans les revues classées AAA, l'impact factor, je pourrais vous parler des travailleurs sociaux qui ont des timesheets, des feuilles de temps dans lesquelles ils doivent mettre exactement le nombre de minutes qu'ils ont passé pour telle et telle et telle activité et qui vous racontent tous que ça les empêche de travailler que de travailler comme ça et que ça ne fait pas sens pour eux, etc. Alors, j'ai pas beaucoup de temps, donc j'aimerais bien décliner cette hypothèse de différentes façons. Pourquoi il y a quelque chose de destructeur à l'œuvre dans le monde du travail? Et je voudrais juste problématiser cette question à partir de quelques flashs qui sont pourquoi faire le rapport entre cette question de la montée des risques psychosociaux est totalement liée à l'introduction dans toutes les organisations des théories de cette révolution managériale et des théories du capital humain. Je vous prends un exemple et ce que je vais appeler en provocation l'idéologie des ressources humaines. Je ne sais pas si le Luxembourg a été épargné par cette idéologie-là, mais on a vu à partir des années 80, d'abord dans le privé, puis après dans les modèles vendus par les grands cabinets de consultants, Accenture, PricewaterhouseCoopers, Capgemini, tous ces grands cabinets ont vendu en fait ce modèle qui a été conçu avec eux dans les multinationales, en particulier dans les secteurs technologiques de pointe, de l'informatique, hein, IBM, Hewlett-Packard, Xerox, etc. Et puis après, qui s'est diffusé dans toutes les multinationales, qui s'est diffusé et qui a servi de modèle pour renforcer les performances des clients et des fournisseurs des multinationales, puis qui a servi du modèle pour moderniser les entreprises publiques, France Télécom en France, Pôle Emploi, la SNCF, la RATP, et qui maintenant est le modèle du New Public Management, la RGPP en France, la Révision Générale des Politiques Publiques, qu'on applique à l'ensemble des institutions, avec le soutien actif de Bruxelles. Je ne sais pas si vous connaissez European Foundation for Quality Management, par exemple, qui est auprès des institutions de Bruxelles et qui vend le management par la qualité à l'ensemble des institutions, des entreprises, etc., qui fait même des palmarès pour savoir ceux qui sont les plus performants dans l'application de ce nouveau modèle, etc. C'est ça qui est pour moi, hein, cette transformation et qui propose une transformation des modes d'organisation du travail et des pratiques de management pour gérer pas seulement les entreprises, pas seulement les institutions, mais en fait pour gérer le monde entier. Et qu'une des hypothèses, c'est qu'on attend de ce modèle-là qui nous permette de devenir plus performants pour résoudre les problèmes de la crise, alors que c'est ce modèle-là qui est le moteur de la crise. La crise, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, au niveau de la planète, c'est l'exploitation éhontée des ressources de la planète. La crise, c'est la crise financière qu'on a vue, mais qui n'est pas une crise, puisque la crise de 2008-2009, la crise financière, hein, elle a démarré dans le monde, ailleurs, hein, en Argentine, en Asie, etc. Et qu'on serait en état de crise si on était dans un état de transition entre deux moments de stabilité. Mais là, la crise est devenue une crise permanente. Et la crise permanente, elle est liée à quoi, en particulier au niveau économique ? Sur le fait qu'à partir du moment où il y a une dissociation entre ce que certains appellent l'économie réelle, mais l'autre, elle est tout aussi réelle, c'est-à-dire l'économie qui est territorialisée encore sur la production, celle qui existe dans les usines, là où on travaille vraiment, vous disent certains. Hein, ça, c'est l'économie réelle. Et puis l'économie financière, qui effectivement est totalement déterritorialisée, et ça, c'est pas étonnant qu'il y ait une tension ou une crise permanente, à partir du moment où les actionnaires exigent des taux de rentabilité, qui sont des actionnaires d'ailleurs qui sont des fonds de pension, qui sont des établissements dont le pouvoir, la visibilité du pouvoir n'est pas évidente, et qui demandent des taux de rentabilité de 10, 15, 20%, alors que la croissance par rapport à l'économie réelle de la production est de 2, 3, 4, 5%, ben, comment on fait la différence? On fait la différence avec des nouvelles pratiques de management où on vous dit faut que vous soyez compétitif, faut renforcer l'excellence, la performance, et on fait la lean production, c'est-à-dire des formes d'organisation du travail qui permettent de produire plus avec moins, pas travailler plus pour gagner plus, hein, travailler plus pour améliorer la productivité et faire une tension très forte qui fait que ça se traduit en particulier, hein, par des réductions d'effectifs. Moi, ça m'a frappé au niveau, je vais vite, vous m'en excuserez, mais on pourra en débattre. Il y a un des indicateurs de cette corrélation que je fais entre l'introduction de ces nouvelles pratiques de management et la montée des risques psychosociaux, c'est l'idéologie des ressources humaines. Pourquoi je dis idéologie? Pour deux raisons. La première, c'est que ça paraissait progressiste de parler en termes de ressources humaines, à la fois parce que c'était une gestion beaucoup plus dynamique, des compétences, des effectifs, etc., et qu'il y avait le terme humain, et que donc on disait qu'on allait enfin se préoccuper de l'humain et remettre l'humain au centre. Et vous entendiez des DRH et autres dire « l'humain, c'est notre principale ressource ». Sauf qu'évidemment, en considérant l'humain comme une ressource, ça a deux effets. Le premier, il est quasi anthropologique, c'est-à-dire ce n'est plus l'entreprise qui est un moyen par rapport à une finalité qui est l'humain, c'est l'humain qui devient une ressource par rapport à une finalité qui est le développement de l'entreprise. Ça a l'air de rien ce renversement, mais c'est tout à fait considérable sur la façon dont on conçoit effectivement l'humain. Et puis la deuxième conséquence, c'est que les DRH se sont mis à ce moment-là à parler des effectifs comme un coût. les effectifs, c'est plus le travail qui permet de produire de l'œuvre, hein, de la production. Les effectifs, c'est l'ajustement de la masse salariale qui, évidemment, est toujours trop élevé si on veut faire des économies, si on veut améliorer le système, etc. Je vais passer à une deuxième hypothèse, si vous voulez bien. Une des caractéristiques du pouvoir managérien, par rapport à ce qui existait comme mode d'organisation dominant dans les entreprises, vous avez ce qui était, disons, le modèle du taylorisme, hein, le modèle du capitalisme industriel conçu par des ingénieurs qui essayaient de rationaliser le travail à partir de la chaîne, etc. Hein, vous vous souvenez de Charlie Chaplin dans les temps modernes qui avait mis en scène ça. Et peut-être connaissez-vous Michel Foucault qui, dans Surveiller et punir, analyse cette forme de pouvoir qu'il appelle le système disciplinaire. Hein, il y a un lien entre le taylorisme, l'organisation du travail, et le système disciplinaire. Et Foucault dit le système disciplinaire, c'est pour rendre les corps utiles, dociles et productifs. C'est pour une bonne part comme force de production que le corps est investi de rapports de pouvoir et de domination, dit Michel Foucault. Le corps ne devient force utile que s'il est à la fois corps productif et corps assujetti. Et donc le taylorisme, c'était de transformer l'énergie physique en force de travail pour produire ceci, ceci et cela, avec une idée un peu mécanique. C'est-à-dire, c'est la machine, d'une certaine façon, qui déterminait l'acte et l'activité du travail. Ce qui c'est la révolution managériale, c'est un déplacement de l'objet du pouvoir du corps à la psyché. C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus de rendre les corps utiles, dociles et productifs, il s'agit de canaliser le maximum d'énergie libidinale pour la transformer en force de travail. Je reprends la phrase de Foucault et je la transforme, c'est pour une bonne part comme force productive que la psyché est investie de rapports de pouvoir et de domination. La psyché ne devient force utile que si elle est à la fois énergie productive et énergie assujettie. Alors, dans les analyses qu'on a faites sur ce modèle-là, comment on fait ça, ce déplacement, hein, l'objet, rendre la psyché utile, docile et productive? On fait ça par le management, par l'excellence, par exemple. C'est-à-dire, on vous invite non plus à travailler, hein, pour produire contre un salaire, on vous invite à vous investir, à vous mobiliser psychiquement et mobiliser votre subjectivité pour gagner, pour devenir excellent, pour devenir performant, hein, pour être les meilleurs. Et avec une identification à la toute-puissance de l'entreprise, « I want to be number one. I'm the best. We are the best. » Et on est les meilleurs parce qu'on remplit des parts de marché, parce qu'on est des cadres à haut potentiel, parce qu'on a des résultats. Hein, well above expectation, c'est-à-dire quand on vous évalue, hein, on vous évalue le pour avoir A, hein, vous êtes au-delà des attentes. Hein, clearly outstanding pour avoir A, vous devez être hors du commun, c'est ça l'excellence, c'est d'être hors du commun. On vous invite à être hors du commun. Et voyez d'ailleurs le lien avec le monde sportif et le monde dans l'entreprise. Et puis c'est le challenge, c'est les défis, c'est la toute puissance. Pour pouvoir être reconnu à l'intérieur de l'entreprise et pour pouvoir être reconnu dans la société, il faut être effectivement parmi les meilleurs. Il faut être dans l'excellence. C'est la culture de l'excellence. Et d'ailleurs, cette Fondation européenne pour la qualité du management vous propose un truc totalement paradoxal et même dangereux. Il propose l'excellence durable. L'excellence durable, c'est un oxymore. Un oxymore, c'est une formule qui contient sa propre contradiction. C'est-à-dire, être excellent, c'est être hors du commun. Et donc, on vous propose d'être hors du commun durablement. Donc, ça produit deux effets. Le premier, c'est ce que j'appelle la lutte des places, ce que d'autres appellent la compétition, le challenge, la compétitivité, etc. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fin à vouloir être excellent, hors du commun. Hein, ça vous fait rentrer dans l'exigence du toujours plus, toujours, toujours, toujours. Vous êtes, c'est pas un état à être excellent, c'est toujours quelque chose à atteindre, c'est même un idéal. Et l'idéal est devenu la norme, comme l'a écrit dans un très beau livre Marianne Dujarrier, qui a fait sa thèse au laboratoire de changement social. Hein, on est comme ça, hein, toujours tendu vers un idéal. Mais surtout, il ne faut pas s'étonner que ça produise la crise, parce que si tout le monde les individus et les entreprises deviennent hors du commun, que devient le monde commun ? Le monde commun, hein, si vous suivez Anna Arendt ou des gens comme ça, ça devrait être le but de la politique, c'est de construire une société dans laquelle chacun ait sa place, dans laquelle on soit tous ensemble dans un monde commun, quel que soit ses justement, quelles que soient ses compétences, quels que soient ses talents. Hein, là, on voit que l'excellence produit l'exclusion, évidemment, parce que si on vous propose tous ceux qui ne sont pas excellents, bah, ils sont rejetés, ils sont mis sur le carreau, dans l'entreprise ils sont placardisés, hein, ou ils sont jetés, le travailleur jetable, mais aussi dans la société, bah, ceux qui sont handicapés, ceux qui ont des troubles, ceux qui ne vont pas bien, etc. Et donc quand on vous propose un idéal d'excellence, un idéal de performance, et que vous n'atteignez pas cet idéal, ben vous dites « je suis nul, je suis pas bon ». Au lieu de critiquer cette idée que par exemple, par le management par objectif, on vous donne toujours des objectifs plus élevés avec moins de moyens, et de vous dire « mais vous êtes fou ». Ah ben non, on dit pas « vous êtes fou ». On dit « je suis mauvais, ben j'ai pas rempli mes objectifs ». Ben, je suis pas bon là, oui, mais c'est normal puisque je suis fatigué. Oui, mais pourquoi on est fatigué? Et donc vous avez ces syndromes qui fait qu'on intériorise le fait que le moi n'est pas à la hauteur des exigences de l'idéal du moi, c'est-à-dire qu'on a incorporé les valeurs de performance, d'excellence, hein, de l'entreprise et même de la société, qui deviennent partie de son idéal du moi, et quand le moi n'est plus à la hauteur des exigences de l'idéal, ben, il s'effondre. C'est le, hein, c'est le karoshi, c'est le, ou c'est, tous les symptômes, hein, c'est, sont plus ou moins des symptômes de dépression. C'est-à-dire, la dépression, c'est quoi? Ben, c'est justement quand vous avez le sentiment que votre vie n'a plus de sens, ne vaut plus la peine, que votre moi ne vaut rien et que vous ne valez rien puisque vous n'arrivez pas à satisfaire les exigences de l'idéal. Et c'est seulement en satisfaisant les exigences de l'idéal que vous pouvez être bien, hein, mais en même temps, ce que montre bien la psychanalyse, c'est que ça, ces satisfactions narcissiques, elles sont hors limite. Et donc, elles vous mettent effectivement dans des symptômes, hein, qui peuvent très bien basculer dans la maladie mentale, qui sont toutes les pathologies du narcissisme, qui sont ces borderline, et surtout la pathologie la plus développée, qui est la dépression. Dépression larvée dans un premier temps et qui produit des effets dans les organisations qui sont très très qui se retournent, hein, contre les salariés eux-mêmes, parce que celui qui est déprimé renvoie aux autres l'image de ce qu'ils ont peur de devenir, et donc de ce fait-là on le met en quarantaine, on l'exclut, on n'est pas bien avec lui, on voudrait l'aider, il y a beaucoup de compassion évidemment, mais en même temps on ne sait pas comment faire. On est mal à l'aise avec ça, et puis en plus de ça, lui-même se met dans une situation de se replier sur soi, c'est l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, on a évoqué tout à l'heure les autopsies par rapport au suicide, et on voit bien ce basculement d'une spirale dans laquelle à la fois il y a des effets objectifs liés au travail, et puis des effets subjectifs, évidemment il y a de la fragilité, c'est toujours un problème personnel quand on se suicide. Ce qui est terrible, c'est que dans ce débat, entre les uns qui disent « Ah ben oui, il s'est suicidé parce qu'il avait des problèmes personnels », ils ont raison. Et les autres qui disent « Oui, mais si, il s'est suicidé, il l'écrit dans ses mains, c'est bien à cause du travail, c'est bien parce qu'il n'a pas été reconnu, c'est bien parce qu'on la met par rapport à des objectifs qu'il ne pouvait pas remplir, c'est parce qu'il y a des processus d'exclusion à l'intérieur de l'entreprise. » Les deux ont raison, puisque c'est l'articulation entre les deux qui est vraiment explicative de ces phénomènes. C'est pour ça que il faut sortir des cloisonnements disciplinaires dans lesquels on est pour aborder ces questions. Et que un des problèmes, c'est que la psychologisation et la médicalisation du problème tend à occulter les liens avec l'organisation du travail, mais que les liens avec l'organisation du travail ne doivent pas non plus occulter le fait que les gens qui sont pas bien, ils développent effectivement des symptômes somatiques et psychosomatiques et qu'ils ont aussi besoin d'une prise en charge médicale et psychologique. Mais il faudrait une prise en charge médicale et psychologique sans psychologiser et sans médicaliser le problème. Ce qui évidemment demanderait, dans la formation des psychologues et des médecins et des psychiatres, une formation bien particulière qui intègre une formation sociologique sur les enjeux de gestion, etc. C'est-à-dire hein, qui nous permettent de sortir du débat, en particulier de la coupure entre ce qui le médico-psychologique d'un côté et le socio-économique de l'autre, et qu'on aurait besoin de concilier les deux. Alors, pour illustrer ça, je voudrais juste vous lire un texte qui m'a beaucoup touché, parce qu'il me paraît aussi exprimer permettre d'introduire une autre hypothèse, et ce sera la dernière avant de conclure, sur qu'est-ce qui se passe là qui fait que autant de gens sont aussi mal. Le 15 septembre 2009, 8h55, moi, Catherine Kokoska, directrice départementale de la protection judiciaire de la jeunesse à Paris, enfermée que j'étais dans le travail comme en huis clos, je me jette par la fenêtre de la direction départementale du 3e étage sur cour. Donc la PJJ, je ne sais pas s'il y a l'équivalent ici au Luxembourg, hein, la protection judiciaire de la jeunesse, de l'enfance en danger, des enfants en difficulté. Donc elle est directrice. Et puis, au lieu d'aller à la réunion qu'elle avait convoquée, elle se jette par la fenêtre. Et ainsi commence le texte qu'elle a écrit, un mois après son passage à l'acte, texte dans lequel elle en explique les raisons. Et ce texte a été diffusé par son syndicat à sa demande, et elle présente la rédaction de ce texte comme une nécessité pour, dit-elle, ne pas enfouir son passage à l'acte dans les limbes de l'oubli, le parler, en comprendre les raisons profondes, et pouvoir recommencer à penser. J'insiste là-dessus, pouvoir recommencer à penser, parce que dans toutes les interviews que j'ai faites de gens qui avaient vécu des moments comme ça, un des symptômes, c'est je ne pensais plus, j'arrivais plus à penser. Et parmi les raisons, dans son texte, elle évoque longuement la contradiction entre deux identités. L'identité de l'éducatrice, formée aux sciences humaines, qui choisit ce métier pour sa mission première, sa finalité, qui est de s'occuper des jeunes en difficulté. Et l'identité de la fonctionnaire d'État, qui a gravi tous les échelons de la hiérarchie et qui doit mettre en œuvre la réforme de l'État, ce qu'on appelle en France la RGPP, la Révision Générale des Politiques Publiques, qui est en fait l'introduction des principes du New Management Public au sein des institutions et de l'administration. Et elle estime que cette mise en place de la réforme de l'État remet en question sa mission éducative. C'est ce conflit de loyauté, dit-elle, qui m'a fait passer de l'autre côté du miroir. Ma tâche est de diriger un département, de mettre en œuvre les consignes de mon administration. Or, mes idéaux, ma conception de la République, ma conception du bien commun, de l'intérêt général, des missions de la PJJ, m'ont paru de plus en plus en complète contradiction avec ce qui m'était demandé. Et l'hypothèse qui est derrière ce texte, c'est qu'on peut retrouver, que ce soit aujourd'hui dans la réforme hospitalière, la réforme de la PJJ, la réforme de Pôle emploi, la réforme de la police, de la justice, de l'université, de la recherche, dans tous les secteurs des institutions, quels qu'ils soient, même dans les associations de travail social, les éducateurs spécialisés, etc., c'est toujours le même discours. Il y a une contradiction entre l'organisation et l'institution. Entre les logiques organisationnelles et les finalités institutionnelles. Ou pour être plus précis, entre les conceptions qui sous-tendent cette nouvelle gestion publique et les missions de service public qui sont confiées à ces institutions. Le conflit de loyauté qu'elle évoque, c'est d'un côté, donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour s'occuper de l'enfance en danger, et de l'autre côté, c'est mettre en place des procédures d'évaluation, de management par les objectifs, de management par projet, etc., pour moderniser l'État, et derrière la modernisation de l'État, c'est le rendre plus efficace, plus performant, c'est-à-dire faire plus avec moins, hein, c'est-à-dire refixer des objectifs tout en ayant une réduction des moyens, parce qu'il y a la dette publique, parce que bon, des choses que vous connaissez parfaitement, encore que peut-être le Luxembourg est plus protégé que nous sur les tensions qui peuvent exister entre ces deux logiques. Et donc, il y a là, à l'évidence, tous les professionnels que vous rencontrez, tous vous disent exactement la même chose, comme le médecin tout à l'heure pour la T2A, hein, que ces nouvelles, ces missions, hein, la modernisation de l'État, est-ce qu'elle doit mettre en place comme fonctionnaire d'État, hein, qui a la direction, hein, le management d'une organisation, vient de plus en plus en contradiction avec la conception qu'elle se fait de cette mission et des finalités, hein, pour lesquelles elle a choisi ce métier. Moi, comme chercheur, par exemple, je suis en bataille contre l'ARS, l'Agence d'évaluation de la recherche de l'enseignement supérieur, qui va évaluer mon laboratoire le mois prochain. Parce que, par exemple, à la dernière évaluation, le premier indicateur qui est sorti, c'est 10 chercheurs non publiants. Les chercheurs non publiants, c'est des gens qui ne publient pas dans les bonnes revues, hein, qui sont au top de la discipline et qui sont classés comme les agences de notation. Hein, vous avez les revues AAA, AA, A, B, C. Bon. Il faut, un chercheur est reconnu en fonction du nombre d'articles qu'il a publiés dans ses revues. Deux remarques. La première, c'est que moi, je ne suis pas d'accord avec cette politique parce que ça fait 30 ans, comme directeur de ce laboratoire, que j'invite des praticiens, hein, à venir dans le laboratoire, des médecins, des psychologues, des coachs, des consultants, etc., qui veulent réfléchir sur leur pratique et qui veulent accéder à la recherche. Et moi, en même temps, je trouve ça formidable parce qu'ils nous offrent des terrains de recherche, etc. Et c'est dans cette collaboration étroite entre des praticiens et des chercheurs que les praticiens peuvent réfléchir sur leur pratique et que les chercheurs peuvent aller au plus près de la pratique pour faire des recherches. Et l'ARS me dit « Ah oui, mais ça ne rentre pas dans les indicateurs. » Eh bien, je continuerai à faire cette politique, mais je mets en même temps, je menace mon laboratoire qui risque de, ben, qui a été classé B au lieu d'être classé A d'ailleurs, alors que tout le monde par ailleurs reconnaissait la qualité, la pertinence de nos recherches et qu'on était le seul laboratoire, non seulement en France mais dans le monde, puisqu'on accueille des chercheurs du monde entier sur ces problématiques de recherche. Vous voyez, bon, alors c'est le monde, on peut dire c'est le monde tel qu'il est, mais sauf que à certains moments, moi, comment je me sors du paradoxe dans lequel je suis en faisant ce que je fais aujourd'hui avec vous? C'est-à-dire, je fais de la métacommunication et j'analyse, j'utilise ça comme outil de recherche pour pouvoir produire la connaissance sur ces processus. C'est mon moyen à moi d'essayer de ne pas devenir dingue. Hein, entre ces deux exigences, du coup, je ne me suis pas jeté par la fenêtre. Mais peut-être aussi que c'est parce que j'ai pas mon estime de... Je repense à la question, à la réponse que vous avez portée tout à l'heure. J'ai peut-être que mon estime de moi me permet de résister un peu mieux que des autres à ces paradoxes, etc. C'est vrai aussi. Donc c'est là où je pense que on trouve une explication au fait que les gens à un moment donné n'en peuvent plus, c'est-à-dire qu'on voit bien que les logiques institutionnelles, les finalités institutionnelles, hein, que c'est comme les policiers par exemple, la finalité institutionnelle c'est la sécurité. Quand ils n'ont pas fait leurs chiffres à la fin du mois et qui sont obligés de monter le quota de contravention, de procès-verbal qu'il faut avoir pour atteindre les objectifs et qui vont passer toute la journée à verbaliser n'importe qui, n'importe comment, bah, quelque part, leur estime de soi, elle en prend un coup. Ils ont honte. Et c'est ça le pire. C'est que ces nouvelles pratiques de management qui fonctionnent à l'évaluation au résultat, au management par objectif, au management par projet, ils trichent. Les multinationales trichent pour avoir des bons résultats financiers. Tout le monde triche. Je ne parle même pas des débats sur la fiscalité, comment échapper à l'impôt, etc. Bon. Mais les paradis fiscaux et ça, tout ça... Non, je ne vais pas parler de ça ici. Surtout, vous êtes beaucoup plus compétents que moi sur ces questions-là, donc je ne vais pas en parler. Mais les médecins trichent pour avoir leurs points par rapport aux malades. Les infirmières trichent. Les policiers trichent. J'avais une thèse hier sur l'administration pénitentiaire et la justice. Ceux qui sont chargés, les gardiens de la loi, les juges, ils trichent pour faire semblant de remplir leurs objectifs. Les chercheurs, ils trichent pour faire semblant de faire des publications et pour avoir des publications dans des revues qu'ils n'ont pas écrites. Moi, j'ai fait un article pour une des plus belles revues de gestion qui est cotée. Magnifique. Je pourrais vous dire tout ce qu'il faut faire pour faire un article comme ça. Moi, je l'ai fait effectivement pour pouvoir comprendre le processus. Ils m'ont demandé 39 versions. Et parmi toutes ces versions, c'était quoi? C'était surtout que j'arrive à citer la bibliographie des gens qui, en fait, allaient m'évaluer. Pourquoi? Parce qu'ils sont évalués en fonction du nombre de citations qu'ils ont. Et donc, pour pouvoir publier dans leur revue, si on ne les cite pas, ils ne vous disent pas, ils ne m'ont jamais demandé de les citer. Je n'ai pas obligé de les citer. Je suis un homme libre. Je suis un chercheur indépendant et tout. Mais petit à petit, par pression successive, j'ai bien compris qu'il fallait que... Vous voyez. Alors, est-ce que c'est de la tricherie? Est-ce que c'est de la... Un sociologue crozérien vous dirait, c'est la stratégie de l'acteur pour s'adapter au champ dans lequel il est. Mais derrière cette stratégie de l'acteur, on n'en sort pas impunément. Hein, on n'en sort pas complètement indemne de ça. Et donc, je terminerai sur cette question-là, c'est... Dans quel monde est en train de produire et ne sommes-nous en train de produire? Une des difficultés très grandes pour résister ou pour échapper à cette logique profonde, c'est qu'on se rend bien compte que ce n'est pas un système qui nous est imposé. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord, par exemple, avec Christophe Dejour dans Souffrance en France, comme il dit, par rapport à Eichmann, qu'on serait dans un système totalitaire. Non, on n'est pas du tout dans un système totalitaire. Personne ne vous oblige à intérioriser ces logiques de fonctionnement. Mais c'est le paradoxe de l'autonomie contrôlée. C'est-à-dire que vous êtes des sujets libres qui pensez ce que vous voulez et qui choisissez ce que vous voulez faire. Vous êtes autonome. Mais votre autonomie ne peut s'exercer vraiment que si elle se coule dans les cadres qui vous sont donnés pour vous permettre de produire, de travailler, de penser, etc. Et donc, si on ne comprend pas qu'il y a une intrication profonde entre ce qui est du registre psychique et mental et ce qui est du registre social, organisationnel et institutionnel. Et je terminerai là-dessus parce que je pense que vous êtes pluridisciplinaire ici, comme public. Mais je vois combien une des difficultés est dans les débats des commissions, etc., auxquelles Patrick Légeron a participé et tout. On voit bien que chacun pense et entre dans le problème en fonction de ses compétences, de sa discipline d'origine, etc. Le statisticien vous dit qu'il faut produire des indicateurs de stress parce que sinon on n'arrivera jamais à démontrer que le problème existe. Le psychiatre ou le psychanalyste ou le psychologue mettra l'accent sur les effets somatiques et psychosomatiques et dira il faut les traiter, donc il faut faire de la prévention, donc dans une entreprise on va faire un numéro vert et comme ça les personnes fragiles pourront consulter un psychologue qui va leur répondre et leur permettre de dépasser cette crise, cette difficulté, de ne pas sombrer définitivement dans la dépression. Les sociologues du travail vont vous dire si vous ne comprenez pas ce que produit le management par objectif dans lequel on demande aux gens de plus en plus, des objectifs de plus en plus élevés et qu'en même temps on réduit les moyens pour remplir ces objectifs, vous ne comprendrez pas pourquoi ils sont en tension, etc. Chacun a son explication et chacune de ces explications est juste, donc ça peut durer très longtemps. Hein, parce que ça se traduit en même temps du côté des décideurs par le fait, vous comprenez bien qu'en France on a des CHSCT, des comités qui sont chargés de réfléchir sur la politique de prévention des risques psychosociaux. Et je peux vous dire, dans ces CHSCT, vous avez toujours les mêmes scénarios entre le DRH, les syndicats, le médecin, le psychologue, qui ont chacun leur solution et qui mettent l'accent chacun sur tel ou tel aspect du problème. Et combien ça arrange, évidemment, les directions de dire « Oui, oui, on met en place une politique de prévention. Regardez, on a mis en place un numéro vert avec des psychologues et on a formé les managers pour qu'ils puissent être tout à fait conscients des risques psychosociaux et donc qu'ils puissent repérer immédiatement les gens les plus vulnérables. » La trouille des directions, la prévention, leur préoccupation principale, c'est pas de résoudre le problème, c'est d'éviter qu'il y ait un suicide. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a un suicide, alors là. Encore que ça n'a pas empêché France Télécom et d'autres de continuer à fonctionner. Donc il y a là une vraie difficulté qui, pour moi, n'est pas seulement politique, par rapport liée à cette sérialisation des approches, mais qui est aussi théorique comme chercheur. C'est-à-dire le fait que les uns et les autres sont formés dans une approche et donc ils pensent le problème à travers les paradigmes sur lesquels ils ont été construits. Pour ça que je pense que une des choses les plus importantes à faire pour pouvoir répondre à la question qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça, c'est de changer de paradigme et en particulier de remettre en question les paradigmes de gestion qui sont les paradigmes sur lesquels les acteurs pensent la solution au problème. Alors, je pourrais y revenir, j'ai développé ça dans la société malade de la gestion, c'est-à-dire, par exemple, le paradigme positiviste. Le paradigme positiviste, c'est les directeurs qui vous disent « bon, amenez-moi la solution », qui vont s'adresser à des experts, et puis arrêtez d'être négatifs, les sociologues, vous êtes négatifs, vous arrêtez pas de critiquer, tout ça. Dites-nous ce qu'il faut faire. Et vous êtes un expert, vous êtes spécialiste des problèmes. Bon, et donc, ils réfléchissent par procuration, c'est-à-dire ils payent des gens pour réfléchir à votre place, et donc ils font appel à des consultants spécialisés qui sont censés effectivement apporter, par exemple, des référentiels pour faire de la prévention des risques psychosociaux, qui sont des usines à gaz absolument incroyables, pour mesurer le phénomène, essayer de l'objectiver, etc., qui ne changent rien à la question, mais qui les rassure en disant surtout, ne venez pas nous embêter là où ça fait problème, c'est-à-dire dans une remise en question des formes d'organisation et du management. Si on veut bien former les managers à la gestion du stress, mais voyez comme c'est paradoxal, si on pense que le stress est justement dû à la gestion et qu'on forme les managers à la gestion du stress, eh bien on ne fait que renforcer les paradoxes. Et je terminerai quand même en vous disant il y a un enjeu politique derrière, un enjeu idéologique et politique. Donc quand j'ai écrit le coup de l'excellence, avec Nicole Aubert, on évoquait un suicide sur un parking d'IBM où qui était Michel Lecordier, son nom est paru dans la presse, c'est pour ça que je me permets d'en parler. C'était en 1990. Et il avait laissé une lettre. Depuis déjà de nombreuses années, je n'avais plus d'illusions sur la compagnie IBM. Aller jusqu'à déshonorer sans motif fonder une personne, cela s'appelle de la paranoïa. C'est un immense panier de crabes où tous les coups sont permis. La compagnie arrivera-t-elle à survivre à cette mutation de la personnalité des gens qu'elle emploie ? Je ne sais pas, et d'ailleurs je m'en fous, et elle m'a eu. J'espère au moins que cela profitera à l'auteur de ce crime, car c'est bien un crime qui vient d'être effectué contre ma personne, un crime envers un innocent. Paranoïa, psychiatrie, c'est évident, le type, il est... Seulement, il dit des choses tout à fait intéressantes. Il dit que ces mutations de la personnalité dont il parle. Et c'est ça qu'on a analysé dans ce livre. C'est comment, effectivement, par des sélections, par des promotions, par des inculcations, les gens d'IBM ce qu'ils appelaient The Good Book, The Bible, etc., c'est-à-dire les manuels de management, avec une éthique, avec une vision d'entreprise, etc. Et ce qui est très important, je crois, à dire, c'est pour ça que je termine là-dessus, c'est que personne ne peut se permettre et s'autoriser à critiquer des entreprises qui ont été ultra performantes, qui ont chaque année montré qu'elles pouvaient développer du matériel informatique qui était deux fois plus puissant, deux fois plus petit, deux fois plus design, deux fois moins cher, qui sont passés du gros ordinateur centralisé au fait que chacun de nous a dans sa poche un petit ordinateur, un bip bip, etc., et peut accéder à la connaissance qui est produite dans le monde entier. La performance est inouïe, la performance est formidable. En plus, ces gens-là étaient plutôt bien payés, trouvaient que leur boulot était intéressant, étaient fiers de travailler à IBM. Pourquoi vous voulez critiquer ça ? Sauf que depuis 30 ans que j'ai travaillé à IBM, et au mois de juin, j'ai été appelé, 30 ans après avoir écrit l'emprise de l'organisation avec Max Pagès, donc sur IBM, par les élus du comité d'entreprise d'IBM, parce qu'ils voulaient former leurs représentants syndicaux sur la question des risques psychosociaux. Qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'il y a une histoire avec le docteur Galamant, je ne sais pas si vous en avez entendu parler ici, qui est un médecin du travail d'IBM, qui avait fait un petit observatoire interne sur le stress et qui avait montré qu'entre 2005 et 2009, les gens qui étaient, tous les gens qui recevaient, donc qui étaient tout venant, il en avait reçu 1300, ce qui n'est pas rien, en un an, en quatre ans, hein, 1300 par an, les gens qui étaient passés en zone d'hyperstress s'étaient passés de 40 à 70%. Et qu'il avait écrit à la direction pour alerter la direction sur ce phénomène. Et que hyperstress, je peux vous dire, c'est vraiment, dans son échelle, c'est sérieux. Hein. Donc c'est une auto-évaluation par les personnes eux-mêmes à partir d'un certain nombre d'indicateurs, c'est des choses qui sont connues.
C'est comment qu'il va passer le temps ?
Hein ?
C'est comment qu'il
va passer le temps ? Alors, j'ai une minute et j'ai fini. Une minute pour vous dire deux choses. La première, c'est que la direction a écrit au Conseil de l'Ordre des médecins pour dire que le docteur Galamant devait être radié de l'Ordre des médecins parce qu'il sortait de ses attributions. Deuxième chose, en parlant avec ses élus du comité central d'IBM, l'ensemble des organisations syndicales, il me glisse à l'oreille à la fin de la matinée, mais vous savez, ici, on se suicide plus qu'à France Télécom. Et je leur dis, mais vous êtes des organisations syndicales. Vous n'avez jamais communiqué là-dessus ? C'est quand même important ce que vous me dites là. Il me dit non, on ne peut pas communiquer là-dessus. On ne voudrait pas quand même écorner l'image de la boîte. Voyez que quand je dis c'est un problème politique, je m'adresse à nous tous comme citoyens. Hein, je ne m'adresse pas au monde politique, je m'adresse à nous. C'est qu'est-ce qu'on produit comme monde quand on voit que ceux-là même qui sont chargés de défendre hein, le personnel, en particulier sur ces questions-là, sont eux-mêmes dans une situation tellement contradictoire qu'ils n'osent même pas aborder la question de front parce qu'ils ont tellement intériorisé le fait que, pour eux, hein, la fierté du travail, c'est de s'identifier à une boîte qui est performante, etc., que ça les met dans un trouble profond. Et donc je pense qu'il faut à la fois travailler sur ce trouble et en même temps faire de ce trouble, non pas de la culpabilité, de la honte et des symptômes psychosomatiques, mais le transformer en analyse collective et en colère, c'est-à-dire en colère par rapport à tout ce qu'il peut y avoir de destructeur aujourd'hui dans notre société qui nous amène à accepter l'inacceptable. Je vous remercie.
Bonjour, donc j'aimerais vous parler des changements dans le langage. Donc j'ai constaté dans ma carrière professionnelle que les terminologies changent. Par exemple, un patient devient un client ou une femme de charge devient une technicienne de salle. Est-ce que vous pouvez faire un rapprochement avec ce que vous venez de dire ? Merci.
Oui, il y aurait beaucoup à dire sur une des caractéristiques de ces changements de langage. Il faut faire l'analyse de contenu de la novlangue managériale, c'est-à-dire de cette façon qu'il y a aujourd'hui dans beaucoup d'organisations du travail, mais aussi dans les enseignements de la gestion, d'euphémiser les contradictions, d'euphémiser les conflits, en faisant comme si on pouvait effectivement les aborder en termes de neutralité. Et je vais prendre un exemple de cette euphémisation et de cette novlangue managériale, c'est les risques psychosociaux. Il y a, en 2004, je pense, on demande le ministre du Travail, je crois que c'est lui, ou le Conseil économique et social, demande un rapport à Christophe Dejoux qu'il appelle la violence au travail. 4 ans après, il y a les suicides de France Télécom, etc., on parle de souffrance au travail. Et aujourd'hui, on parle de risques psychosociaux. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que, évidemment, violence au travail, c'était inacceptable pour un certain nombre d'appeler ça comme ça. Parce que tout de suite, ça mettait l'accent sur ces violences innocentes que vous avez un peu évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire ces violences qui sont légales, qui ne sont pas violentes. Personne n'a envie d'être violent dans ce monde-là. C'est un monde policé, c'est un monde civilisé, et les gens, de bonne foi, essayent de faire le mieux possible leur travail et de régler les problèmes le mieux possible, etc. Il n'y a pas de violence là-dedans. Parler de violence, c'est quelque part, c'est choquant, quoi. C'est choquant. Et, et pourtant, il y a des violences innocentes. La violence innocente, c'est par exemple, totalement innocente, c'est effectivement le management par objectif. Et à partir du moment où on fixe des objectifs de plus en plus élevés aux gens, et que par ailleurs, on réduit les moyens pour atteindre ces objectifs, et qu'on leur dit que c'est eux qui sont responsables du fait que les objectifs n'ont pas été atteints. Ça, c'est une violence. Ou Bourdieu parlait de la violence symbolique dans les rapports sociaux, je peux vous dire dans le travail, le harcèlement, par exemple, se traduit rarement par un comportement harceleur. Les pervers narcissiques et tout, ils sont très très minoritaires dans les organisations, alors que le harcèlement est très très développé. Pourquoi ? Parce que le harcèlement ne vient pas du comportement d'une personne qu'il faudrait stigmatiser. Il vient en fait de la tension que met en place un certain nombre d'outils de gestion, comme le management par objectif, comme l'évaluation individualisée, alors que les performances sont liées à des collectifs, etc. Donc derrière le langage, il y a effectivement ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est pour ça que je critique beaucoup la façon dont la gestion est enseignée dans les écoles de gestion. Et je l'ai vu à Dauphine. Le projet de Dauphine, c'était science des organisations. Donnez-nous des théories qui nous permettent de comprendre ce que c'est qu'une organisation, comment ça fonctionne. C'est devenu des sciences de gestion. C'est-à-dire, apprenez à optimiser le fonctionnement des organisations pour leur permettre de remplir les objectifs qui leur sont fixés. Et bien, quand on passe de l'un à l'autre, effectivement, on ne forme pas les mêmes gens. Au lieu de former des gens qui sont capables de comprendre le monde tel qu'il est, on forme des gens qui sont au service de la novlangue managériale pour optimiser le fonctionnement des organisations. Par rapport à quels objectifs ? Des objectifs quantitatifs et des objectifs financiers, point à la ligne. Donc les risques psychosociaux, ça permet à tout le monde de se mettre d'accord sur un terme qui ne permet pas d'identifier vraiment de quoi on parle. Le risque, il est pour qui ? Alors pour certains, c'est pour les travailleurs, donc il faut faire de la prévention médicale et psychologique. Moi, ce que j'ai dit, le risque, il est pour nous, il est pour la société, parce que c'est la société qui est en train de se détruire aussi. Mais ça, évidemment, bon, vous pourriez d'ailleurs, ça serait une recherche très intéressante, à faire d'interviewer l'ensemble des acteurs sociaux concernés par le problème et de leur demander pour eux, c'est quoi le risque ? Mais le risque, ça permet justement de ne pas répondre à cette question. Et psychosocial, c'est encore plus intéressant, parce que le psychosocial avait été évacué complètement de l'entreprise, pour l'économie, les finances, la gestion, etc. Et elle revient en quelque sorte à cette occasion-là. Psychosocial, ça dit tout et ça dit rien du tout. Donc ça permet effectivement de naviguer sans prendre parti sur la question, évidemment, qui est délicate, c'est la question des causes. Parce que c'est la question des causes qui détermine la réponse en termes de solution. Et donc la novlangue managériale, c'est pour ça que j'insiste beaucoup là-dessus, est une langue insignifiante. C'est-à-dire qu'elle ne permet plus de penser. Si les gens n'arrivent pas à penser, c'est parce qu'ils ne peuvent pas penser dans les termes dans lesquels le management et le langage managérial posent les problèmes. J'ai fait l'analyse, par exemple, de la brochure de The European Foundation for Quality Management. C'est invraisemblable, ça illustre. ce que Castoriadis appelait la montée de l'insignifiance. Et si vous voulez avoir un plus bel exemple de ça, vous allez vous taper Didier Noyer, le parler creux sans pelle. C'est un tableau qui est absolument magnifique. Vous avez 5 colonnes et vous prenez n'importe quel mot de la première, n'importe quel mot de la deuxième, il y en a à peu près une vingtaine, n'importe quel mot de la troisième, la quatrième, la cinquième, et vous faites des phrases. Et vous prenez n'importe quel manuel de management et vous retrouverez ces phrases dans les manuels de management. C'est une démonstration, le parler creux sans peine, magnifique sur ce que, sur cette novlangue managériale et le fait de son insignifiance et du fait qu'elle ne permet pas en particulier de penser qu'est-ce qui se passe autour de la question des risques psychosociaux aujourd'hui dans les entreprises.
Bonjour aussi, grand merci pour votre intervention. On se pose la question, comment sortir la voiture de la roue, hein? Parce que dans ce que vous dites, ça peut aussi faire peur. Hein? Et donc je me dis, est-ce qu'on pourrait passer, parce que je pense que aussi vous cassez un système complètement... c'est parfois aussi extrêmement difficile et aussi très douloureux. Et je me pose la question, est-ce que si on essayait de trouver des indicateurs qui se recentrent plus sur l'humain dans le management, est-ce que ça pourrait être une piste? Parce que dans cette piste, c'est souvent un comportement absurde à la limite qu'on demande à la personne. Mais est-ce qu'il y a moyen de passer plus dans du... Et j'ai l'impression qu'il y a une réforme dans certains pays où on parle plus vraiment de management de la santé. Est-ce que vous pensez que c'est une piste?
Oui. Alors, la chance qu'on a, c'est que par rapport à la question pour sortir la voiture, de quoi?
De la roue. De la roue. C'est comme ça que je l'ai ressenti, là, un peu.
Imaginez-vous qu'il y a un atelier cet après-midi sur cette question-là. Et que j'ai fait un manifeste où j'essaye de répondre à cette question parce que, évidemment, c'est une question tout à fait centrale. Et que, mais ceci dit, ma réponse première, c'est que la thérapie est contenue dans le diagnostic. Donc, la solution, que faire pour sortir la voiture, hein, c'est d'essayer d'abord de se mettre d'accord sur le diagnostic. Et ce qui me frappe beaucoup dans mes rapports avec les acteurs sociaux, hein, les patrons d'entreprise, les DRH, les syndicats, les politiques, les médecins du travail, tous les acteurs. Tout le monde, je suis rarement contesté sur le diagnostic. Rarement. Ou sur du détail et tout. Par contre, mes interlocuteurs, la plupart du temps, ne veulent pas en tirer les conséquences. Ce n'est pas moi qui résiste à essayer de répondre à la question « qu'est-ce qu'il faut faire ?» Hein, c'est les acteurs qui résistent à ce qu'il faut faire si on veut vraiment répondre à la question. Et voilà la deuxième partie de la question. Par exemple, hein, y a des gens qui disent, bon, par rapport à la cantophrénie, hein, la maladie de la mesure, ben, si au moins on mettait en face des indicateurs financiers, des indicateurs de résultats économiques, etc., des indicateurs intelligents, prenant en compte la question de la santé. Je veux dire, Patrick Légeron, dans son rapport, avait beaucoup travaillé là-dessus. Si on avait un bon indicateur qui permettrait vraiment, sans contestation possible, de dire, voilà, le problème dans cette entreprise, ben, le stress, il était là, il est passé à ça, etc., là, on aurait un support et un étayage pour pouvoir fonctionner. J'ai des collègues économistes qui n'arrêtent pas de conseiller l'ONU, l'UNESCO, etc., sur des indicateurs de bien-être en disant l'indicateur du PIB, c'est une catastrophe, puisque on agrège des variables. Hein. Plus la luminosité baisse, plus on vend de lunettes et plus le PIB augmente. Donc ça ne va pas. Plus la pollution augmente, plus on fabrique des trucs pour lutter contre la pollution, et on va dire que le pays est de plus en plus riche. Bon, ça ne va pas. Donc il faut avoir des indicateurs intelligents. D'accord. Moi, j'ai commencé ma carrière en travaillant sur les indicateurs sociaux avec Jacques Delors. J'ai fait des études de rationalisation des choix budgétaires pour éclairer la décision publique, pour faire des études coût-avantage, coût-efficacité, en mettant en place des indicateurs intelligents. Je peux vous dire que l'argument qui consiste à dire que comme les interlocuteurs, les patrons, les politiques, n'ont dans la tête que des résultats en termes d'indicateurs, si nous-mêmes, on n'arrive pas à traduire les choses en termes d'indicateurs, ça ne passera jamais. Ben, je peux vous dire que ce bon raisonnement qui paraît rationnel ne débouchera sur aucune solution. La responsabilité sociale des entreprises, les indicateurs sur écologiques, sociaux, etc. C'est très très bien de faire ça. Mais ça ne changera jamais la façon de faire parce que, si vous voulez, pour pouvoir vraiment changer les choses, il faut changer le paradigme. Donc il faut sortir de l'idée que la production d'indicateurs n'ait quelque impact que ce soit sur l'action des décideurs. Et ça, là-dessus, moi, je pense que je suis totalement minoritaire à penser ça. Et que beaucoup de gens pensent tout à fait qu'au contraire, que c'est en produisant des indicateurs qu'on va arriver à changer les choses. À la marge, oui. Mais je pense que, par exemple, les indicateurs de santé et tout ça, c'est très important que ça existe. Et je pense, par exemple, que en France, on a été quelques-uns à batailler pour pouvoir créer en France un observatoire des suicides et qu'il semblerait que ce soit en bonne voie puisqu'il y a 3 jours, le Conseil économique et social et puis le ministère a donné une réponse favorable à cette demande, etc. Et donc ça va être en place. Donc je suis un chercheur, j'ai une formation scientifique, donc je pense qu'il est tout à fait nécessaire de développer la recherche sur ces questions-là et que dans le développement de la recherche, qu'il y ait une place sur cette question des indicateurs, des statistiques, etc. Bon, donc je ne suis pas opposé à ça. Par contre, je ne pense pas que c'est comme ça qu'on va résoudre le problème, parce que la question, elle est en amont, elle est sur la production, les problématiques qui conduisent à produire ces indicateurs. Et que là, de ce point de vue-là, c'est la discussion sur la problématique, et non pas sur la discussion sur les indicateurs, qui doit être l'essentiel du débat. Et que on dépense beaucoup d'énergie pour produire des indicateurs qui font faire l'économie des problématiques sous-jacentes qui permettent de les produire. Je ne sais pas si je suis clair en disant ça, mais je sais que c'est une discussion. Tout le monde n'est pas d'accord avec ça.
Un dernier commentaire, après on va arrêter, parce que tu m'as interpellé.
C'est vrai.
Non, puisque tu as parlé de cette notion des indicateurs, d'abord je veux te dire que je à 99% dans tout ce que tu as dit. Donc les oppositions sont souvent un petit peu artificielles. Je crois que la problématique des indicateurs, qu'on retrouve d'ailleurs beaucoup dans les risques psychosociaux, c'est qu'on confond les moyens et les fins. Les indicateurs sont vécus par certains comme des finalités. Ce sont des moyens. Et c'est vrai que si on arrive à distinguer le moyen de la fin, j'ai la même attitude, c'est ce qu'on appelle le dialogue social. Le dialogue social n'est pas une finalité dans les risques psychosociaux. C'est un moyen indispensable pour arriver à l'objectif, introduire des politiques de santé dans les entreprises. Donc là, il y a une confusion entre fin et moyen. Il faut la lever. Parce que, évidemment, entre ceux qui voient les indicateurs comme un moyen, qui vont les défendre, et ceux qui les voient comme une finalité, qui vont les critiquer ou même s'en servir, tu as entièrement raison d'expliquer que beaucoup d'entreprises se contentent de faire « on a passé un questionnaire, donc on a fait notre boulot ». Mais c'est parce qu'il y a une confusion entre les fins et les moyens. Mmh. Si c'était éclairci, déjà, ça serait réglé. Ensuite, je vais prendre un adage que tous les médecins connaissent. Le thermomètre n'a jamais fait baisser la fièvre. Mais peut-on se passer d'un thermomètre pour faire une pratique médicale? Et penser qu'un thermomètre va faire baisser la fièvre est une grande illusion. Je crois que les indicateurs doivent être... Il doit y avoir, puisque tu parlais de consensus de diagnostic, je suis assez d'accord, il y a beaucoup de consensus de diagnostic. Je pense qu'il serait très utile, au moins entre experts, entre spécialistes, on arrive à avoir un consensus sur la place des indicateurs. Qui n'est pas si nul. Tu as cité le médecin d'IBM qui a tiré la sonnette d'alarme que je connais bien. Je le connais très bien. Tu as cité. Mais il a tiré la sonnette d'alarme, et tu l'as dit très bien, à partir des indicateurs qu'il avait lui-même mis en place. Donc ça a quand même aidé ce médecin à identifier un problème dans cette entreprise.
Oui, ce qui était, je suis d'accord. Hein, donc les indicateurs sont du côté de préoccupations organisationnelles et non pas institutionnelles, si je reprends l'opposition tout à l'heure. Donc du côté des moyens et pas des finalités. Le thermomètre n'a jamais fait baisser la fièvre, mais le thermomètre n'a jamais non plus permis de connaître les causes de la fièvre. Donc moi, par rapport à votre question, la question c'est bien d'aller aux causes, hein, et pas seulement aux instruments qui permettent de mesurer la fièvre.